Parce que nous avons toutes et tous de la musique dans la tête. Parce que ces musiques ont percé des moments de notre existence. Parce que parfois, ces musiques ont changé nos vies. Parce que ces musiques étaient présentes sur des disques. Parce que ces disques ont une histoire. Un disque, une histoire, c'est votre rendez-vous musical du jeudi soir sur Radio Terre de Mix, de 19h à 20h. Parce que chaque disque a une histoire, et ces histoires font les disques. Un disque, une histoire, aujourd'hui, les Beatles avec l'album The Beatles, mais plus connu sur l'album White Album, ou l'album blanc. Bonjour Max.
Bonjour Bruno.
J'espère que tu vas bien. Ravi de te recevoir. Alors on entend un truc bizarre derrière. C'est quoi ça?
Oh là là. Ça c'est un des plus grands disques de rock au monde de l'histoire de l'univers. 1968.
Est-ce que tu peux nous planter un peu le contexte, le concept de cette histoire, de cette période-là pour les Beatles? On est presque en début, fin 60, des années 60, presque limite 70, ça va démarrer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour eux?
Ben là, il se passe tout. Là, déjà, tu entends la musique. Hein. On est dans la musique concrète, la musique abstraite, la musique contemporaine. Les Beatles se mettent à tout. D'ailleurs, monte un petit peu le son pour entendre. John Lennon, il voulait sortir ça en 45 tours.
Ah oui, d'accord. Je suis complètement ouf, quoi.
Ça s'appelle Revolution 9.
Ah, ils se sont éclatés. Hein.
C'est un morceau qui est construit avec des boucles sonores.
Voyez, ouais, on a vu ça, ouais.
Vous voyez, donc imaginez-vous un peu...
Bien évidemment, dans quel état d'esprit ils étaient. C'est une période donc des Beatles que tu voulais nous faire connaître, et parce que cet album pour toi il t'a marqué. Tu me racontais hors antenne que effectivement on était sur une période où tu as acheté ce disque-là. Tu avais 12 ans, je crois, de mémoire, hein, quand tu m'as parlé de cet album-là. Qu'est-ce qui t'a fait cet album?
Alors écoute, ce disque il sort en 1968. Bon, moi j'ai que 4 ans en 68. Hein. Donc moi je l'ai acheté lorsque j'avais 12 ans. Je l'ai acheté en 1976. C'est le premier disque que je me suis acheté avec mon argent. C'est un double album, bon, déjà. Alors à l'époque quand même, un disque c'est quand même assez cher, les amis. Donc là j'avais mis de l'argent de côté pour en fait m'acheter ce disque-là. C'est le premier disque que je me suis acheté dans ma vie. Le premier disque 33 tours, et là en plus c'est un double 33 tours.
Double album, ouais.
À l'intérieur, en plus, il y avait plein de surprises. Il y avait un poster.
Ils avaient déjà inventé les goodies un peu, c'est ça?
Ouais, ils ont, il y avait les photos, etc. Donc, c'est un disque mythique pour moi. Bon. Alors, ce disque, il est fait en 1968. Il est enregistré entre le 30 mai et le 14 octobre. Donc, ils vont rester en studio environ 4 mois, quoi. Hein. Bon, voilà. Et 4 mois à travailler intensément. Alors, il est enregistré au studio Abbey Road, le fameux studio dont on
comme
a déjà parlé. Les studios d'EMI, donc il y a les 3 studios qui le squattent en temps entier, parce que lorsque les Beatles rentrent en studio, ils prennent tout. Voilà. Mais en fait, pour la première fois, on va aussi aller enregistrer ailleurs. On va aller enregistrer au studio Trident, parce que lorsqu'il leur vient une idée, paf, si tous les studios y sont pris, ils vont ailleurs, parce que à cette époque-là, justement, les Beatles travaillent de façon divisée. Voilà.
Ah, c'est une période de clash interne. Comment ça se passe?
C'est l'époque des tensions, et ce disque est le disque des tensions. Alors, les 4 Beatles sont une entité durant des années et des années. Ce sont 4 véritables amis qui vont vivre une vie que eux seuls connaissent, enfermés dans des chambres d'hôtel, adulés, mais qui à un moment donné vivent vraiment isolés du monde et qui ont, grâce à leur amitié, survécu à ce qu'ils ont vécu. Parce que je veux dire, ce qu'ils ont vécu était assez abominable. C'était abominable d'être un Beatles,
Beatles, ouais.
Vraiment. Là, pour ceux qui veulent aller voir le dernier film de Ron Howard, là, je vous conseille d'aller voir pour imaginer ce que c'est que cette vie lorsqu'on a 20 ans. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas une vie, quoi. Bref, donc on a passé l'époque des tournées, etc. Les Beatles, donc désormais, sont des artistes de studio. ils enregistrent tout seuls, mais un an auparavant, en 67, donc on avait fait une émission sur le disque Sgt Pepper's, l'un des plus grands disques de l'histoire du rock. Bon,
très clairement.
Ils perdent immédiatement après la sortie du disque leur manager, Brian Ian
Epstein.
Voilà, donc il meurt et donc ils sont perdus, quoi, parce que.
C'était leur mentor un peu ?
C'était pas leur mentor, mais c'est la personne qui les a pris en main de A à Z.
Il les a aidés à les structurer quand même.
Il leur a pris en main leur vie pour qu'eux puissent être purement et simplement des artistes. C'est-à-dire que ces jeunes-là, à 20 ans, ils ont été pris en main et ensuite, ils ont vécu dans un autre monde. C'est-à-dire que, pour que tu aies une idée, les Beatles, à cette époque-là, tu as un coursier de la maison des Beatles, du bureau des Beatles, qui vient leur amener toutes les semaines une enveloppe d'argent. Parce qu'ils ne savent plus rien faire. Je veux dire, c'est des gens qui ne savent pas remplir un papier de sécu. Vous voyez, je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre.
Ouais.
Ils sont en dehors du monde, en dehors
de la vie. Une déconnexion avec la vie, quoi.
Une déconnexion totale. Bon. Ils avaient un manager qui gérait leur vie de A à Z. Bon. Et eux, ils n'avaient qu'à à créer, quoi. Bon.
C'est sûr.
Là, si vous voulez, ils doivent se prendre en main. Donc, ils vont décider de ne pas reprendre un manager. Ils vont décider de se manager eux-mêmes. Et ce sont quand même des fils de la classe ouvrière. C'est des fils de Liverpool. Ils sont mal à l'aise avec ce fric. Ils sont milliardaires, quoi, à l'époque. Bon. Et donc, il leur vient l'idée de créer une entreprise. Alors, pourquoi ils veulent créer une entreprise ? Parce que le fisc britannique leur prend 83% de leurs revenus, ce qui est énorme. Et donc, ils disent, puisqu'on nous prend de l'argent, comment ne pas nous prendre de l'argent ? Il faut créer une entreprise. Autant créer une entreprise, mais ils veulent créer une entreprise communiste. Voilà. En disant, notre argent, on va le redistribuer. Le redistribuer à qui ? Aux artistes.
Ouais. Et dans l'idée, ce que tu m'expliquais hors antenne, c'était l'idée de mélanger justement ce concept capitaliste et ce concept communiste, qui est précurseur pour l'époque hein, quand même. Et du coup, c'était la porte ouverte à tout finalement, ça a été le gros bordel derrière.
C'est la porte ouverte à tout, donc ils vont créer une société qui s'appelle Apple, qui s'appelle toujours Apple.
Petite guillemets, sur ce Apple justement, paraît que ce nom leur appartenait ?
Ah ben le nom leur appartient encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont vendu le nom à l'autre Apple et ils l'ont vendu très très cher. C'est eux qui ont créé le concept avec la pomme. Hein, voilà. Et donc, c'est donc une entreprise multiforme dans laquelle on fait à la fois de la production discographique. Ils vont produire pas mal d'artistes comme Badfinger, James Taylor, des gens comme ça, hein, qui vont venir signer chez eux, comme Billy Preston, comme enfin toute une série d'artistes à l'époque. Mais ils vont aussi créer des éditions littéraires. Ils vont créer Apple qui s'occupe du cinéma. Vous voyez, je veux dire, donc ils vont faire des films complètement barrés auxquels on ne comprend rien. Il y a une branche électronique, ils vont fabriquer de l'électronique, etc. Donc ils vont, en mai 68, ils vont aux États-Unis pour lancer leur entreprise en disant, voilà, tous ceux qui ont une idée, ils viennent. Vous imaginez, il y a tous les barrés de la terre entière qui sont venus à Londres dans leur bureau rue Savile Row pour justement qu'on leur finance leur projet. Alors, cette entreprise, vous imaginez, c'est une entreprise hippie de l'époque. Il y a des gens qui sont payés toute la journée pour aller chercher à manger et des choses qui se boivent et qui se fument aux gens qui travaillent sur place. Vous voyez, on dilapide l'argent par les fenêtres.
C'est une entrée-sortie permanente.
C'est une entrée-sortie permanente. Alors, en 68, en début d'année 68, les Beatles sont partis vivre en Inde auprès du Maharishi Yogi, vous savez, la personne qui invente la méditation transcendantale dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Bon. Tout à fait.
Donc ils ont une révélation, ils disent voilà, ils veulent aller en quête spirituelle, donc ils partent en Inde ensemble en espérant trouver je ne sais quelle vérité. Ringo rentre le plus tôt, il rentre au bout de 10 jours parce qu'il a l'estomac un peu difficile. Là, cet homme donc, il était parti là-bas avec des boîtes de haricots rouges. Lorsqu'il a fini ses boîtes de haricots, il rentre. McCartney, il reste un mois, bon, et puis il rentre. George Harrison et John Lennon, ils vont tenir 2 mois et puis en fait, ils vont rentrer.
Mais est-ce que c'est là-bas qu'ils ont eu l'idée de faire cette grosse manufacture ?
Eh ben, non. L'idée, ils l'ont eu avant, mais en fait, lorsqu'ils se retrouvent là-bas à Rikesh, donc,
en Inde,
ils n'ont rien d'autre à faire que de méditer. Et donc, ils font quoi ? Ils sortent les guitares ils créent. Et en fait, ils composent. Bon. Et donc, tout le contenu du disque va être composé là-bas. Mais il y en avait largement de quoi faire 2 autres disques double album, vous voyez, je veux dire. ce sont des gens extrêmement prolixes. Donc, vous voyez, donc, c'est un retour d'un voyage spirituel qui n'a pas été très spirituel, donc ils sont assez désabusés par ça. En même temps, ils sont en pleine création d'une entreprise auquel ils ne comprennent rien, mais ils sentent bien que l'argent sort par la fenêtre et que ce n'est pas bon. En même temps, donc, ce sont des artistes et pas des hommes d'affaires. Donc, vous voyez, lorsqu'ils sont en studio, on vient leur faire signer des lettres, des papiers, des machins. Ce n'est pas très bon. Ils ne sont pas d'accord, surtout entre eux, loin de là. Donc, il y a déjà une tension très forte lorsqu'ils rentrent en studio. Et puis, cerise sur le gâteau, John Lennon vient de découvrir Yoko Ono, la fameuse Yoko Ono.
Et là, ce n'était pas la meilleure chose à faire.
Voilà. Et donc, Yoko Ono qui va venir s'imposer dans le studio, ouais. Chose qui était interdite, je veux dire. Le studio
c'était sacré,
Beatles,
quoi.
C'était sacré. Donc là, vous avez une des femmes des Beatles qui rentre dans le studio, qui se permet de porter des jugements et des critiques sur ce qui est fait. Crise de lèse-majesté. Et puis, encore une fois, ils sont tous extrêmement prolixes à cette époque. Et donc, ils produisent trop. Il y a trop de matériel. Et donc, il faut faire des choix. Et donc, c'est George Martin, le producteur, qui va devoir arbitrer. Vous imaginez ce que c'est que lorsqu'on dit non à Paul McCartney, quoi. Vous imaginez un peu. Bon. Donc, voilà un peu le climat. Voilà. Donc, alors ensuite, c'est 1968. Donc, c'est l'année des révolutions, hein, quand même. Voilà. D'ailleurs, il y aura une chanson là-dessus. Donc, voilà, c'est un bouleversement terrible. On est en plein mouvement culturel, multiforme à l'échelle de la planète, mais 68, c'est aussi la mort de Luther King, c'est la mort de Bob Kennedy. Donc, vous voyez, on est en pleine guerre du Vietnam. Donc, voilà, je vous ai fait un panégyrique un peu de ce qui se passe pour vous donner l'esprit du disque. Maintenant, on va rentrer dans ce disque parce que ce disque, enfin, ce double album est extraordinaire.
Il y a peut-être une chose qu'on peut préciser, parce que là, tu ne l'as pas amené, mais on va s'en rendre compte à l'écoute des albums, c'est qu'effectivement, ils ont été extrêmement prolixes, mais à contrario des autres créations qu'ils ont pu avoir, ils l'ont fait plus ou moins d'une forme individuelle. C'était un peu ça, le truc.
C'est-à-dire que c'est la première fois où ils sont pas ensemble en studio, hormis sur trois chansons, dont en fait deux qu'on va faire entendre, où justement, ils sont ensemble, et ils jouent ensemble, et ça se sent, ça se voit tout de suite. Ils sont tellement en tension les uns avec les autres, et tellement en désaccord les uns avec les autres qu'il y en a un qui compose, qui joue sa ligne, et les autres viennent après enregistrent en re-re, vous voyez, je veux dire. Ouais. Et chacun enregistre dans son propre studio et travaille sur ses propres chansons et ses propres compositions. Mais bon, vous allez voir quand même que le résultat est extraordinaire, parce que c'est les Beatles, et voilà, et c'est comme ça. Donc on va commencer par l'ouverture du disque. L'ouverture du disque, c'est un classique, Back in USSR. Voilà. Et surprise, surprise, vous allez écouter qui joue à la batterie. On va lancer. Donc c'est un pur rock'n'roll, composition de Paul McCartney. C'est très rock'n'roll, hein. Alors à la batterie, c'est McCartney qui joue. Pourquoi ? Parce que Ringo, il est fâché, il est parti.
Il est pas content.
Donc on n'a pas le temps. McCartney qui prend les baguettes et qui joue la batterie. C'est génial.
L'homme a tout faire, quoi.
Il y a les chœurs derrière, façon Beach Boys, écoutez.
Comme d'hab, hein.
Attention, solo de guitare de McCartney encore, tout seul. C'est c'est joyeux hein, quand même. Ça donne de la joie. Hein.
Exactement, puis il y a ce côté aussi encore avec les superpositions de sons.
Ouais. L'avion qui décolle.
Ouais, c'est ça.
Qui revient du RSS.
C'est ça.
Qui dit qu'est-ce que t'es chanceux de revenir du RSS.
Toujours avec la subtilité.
Alors on va enchaîner parce que la musique s'enchaîne.
Normalement ouais.
Et là vous allez écouter, laisse passer l'enchaînement, c'est l'entrée de John Lennon.
Ah d'accord.
Écoute ça, l'arrivée de la guitare en picking.
Il est venu en picking.
Et parce qu'il vient d'apprendre le picking en Inde, il connaissait pas. Donc il y a beaucoup de morceaux en picking. Et là c'est l'une des plus belles mélodies des Beatles.
D'accord.
Je raconterai l'histoire de la chanson après.
D'accord.
Dear Prudence. Une merveille, une merveille. Il y a la basse derrière de Paul McCartney. McCartney qui joue la batterie aussi là sur ce disque. Parce que Ringo était encore fâché. Basse extraordinaire, la ligne de basse, magnifique. Prudence, en fait, c'est Prudence Farrow. C'est la sœur de Mia Farrow qui est avec eux en Inde. Elle est rentrée dans son bungalow et n'en sortait plus. Elle était en dépression. Donc c'est une supplique pour qu'elle sorte du bungalow. Mais écoute ça. Les chœurs. L'entrée de la guitare de George Harrison qui fait de la dentelle derrière. Écoutez ça. C'est de la dentelle. Et les chœurs qui arrivent, magnifiques. Fallait trouver ça. Toujours la dentelle à la guitare. L'entrée de la batterie de McCartney sur la coda, c'est génial ce qu'il fait la batterie.
Ouais.
Alors qu'il ne sait pas jouer. Écoutez ça, c'est génial.
Pour la petite histoire, tu expliquais aussi qu'il y avait plusieurs musiciens qui sont partis avec eux, dont certains des Beach Boys. Donc,
McLove, ouais.
Voilà, qui les a accompagnés. Bon, ça a été un peu compliqué, a priori, mais bon. On va enchaîner.
Là, vous allez enchaîner avec Glassonium.
Voilà, les oignons glacés, c'est ça l'idée?
Alors là, c'est une chanson surréaliste.
Ah oui, hein, déjà le titre est surréaliste quand même. Ça veut
complètement
dire quoi
surréaliste. Un oignon glacé, oui. Donc là, c'est les paroles surréalistes à la John Lennon.
Ouais.
Avec des images psychédéliques. Mais écoutez les arrangements de violon de George Martin.
D'accord.
Et là, vous avez un tempo d'acier. C'est simple comme batterie. Alors, ça tient. C'est une batterie d'acier. Écoutez les arrangements derrière.
Ouais.
extraordinaire, c'est violent. Extraordinaire. George Martin qui crée l'arrangement. C'est du vrai rock, cet arrangement.
On est en 68, hein.
La chair de poule, moi.
Ouais, le travail de la basse aussi.
Un coup de flûte.
C'est rigolo.
La variété musicale de ce disque.
C'est vrai qu'improbable. C'est limite laisser là outro, quoi.
Alors on va poursuivre dans la variété musicale là par des chansons acoustiques. Une de McCartney, une de Lennon. Alors ce disque, autant Sgt Pepper's, c'est le disque de McCartney, c'est lui qui va tout mener, etc. Là, ils sont à égalité entre Lennon et McCartney. D'ailleurs, ils vont se battre dans le disque, ça va être terrible pour imposer leurs chansons. Bien qu'ils les signent ensemble, vous savez, depuis l'origine, ils les signent Lennon-McCartney. Ils touchent les droits tous les deux. C'est lié au pacte de fraternité qu'ils avaient fait l'un à 14 ans et l'autre à 16 ans. C'est un pacte qu'il y a eu entre eux.
Ouais.
Ils sont liés par une amitié qui est liée à la mort de leur mère. Vous savez, ils ont perdu leur mère en même temps. D'ailleurs, la chanson Julia qu'on vous fera entendre parle de ça. Voilà. Mais donc là, vous avez une première chanson acoustique de McCartney. Donc c'est un choix parce qu'il y en a plusieurs sur le disque. Là, je vous fais entendre Blackbird. Alors, Blackbird, on est en 68. C'est une métaphore pour parler de Angela Davis, la leader du mouvement noir et féministe américain qui est emprisonnée. Donc il écrit là, cette hymne-là sur cet oiseau noir. Écoutez ça parce que c'est superbe. Et lorsqu'on comprend ce que signifient les paroles, en plus, c'est encore plus beau. McCartney, tout seul avec une guitare.
All your life,
you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Comment c'est beau, quoi.
Ah oui, non, franchement, c'est musique au coin du feu, tu vois. T'écoutes ça sur ton rocking chair, là, tranquille. Franchement, j'avoue.
Et donc, voilà, ce Blackbird de McCartney, ben, Lennon va répondre par Julia. Donc, Julia, c'est une chanson sur sa mère. Donc, je l'ai déjà expliqué. John Lennon était abandonné lorsqu'il avait 4 ans. Il a été confié à sa tante Mimi.
Et c'est la guitare, le banjo.
Non, c'est pas elle. Justement, c'est sa mère.
C'est sa mère.
Julia qui va revenir lorsqu'il avait 16 ans, va se rapprocher. Lui, va lui apprendre à jouer de la guitare et du banjo. Et elle va être tuée par un chauffard qui est un flic bourré qui va tuer sa mère dans un accident de voiture. Enfin, voilà. Et il va en rester. Comment dire, pétrifié toute sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, ça va être une
choqué,
blessure.
Très clairement, quoi. C'est quelque chose. Bah,
déjà, être un enfant abandonné, c'est pas simple. Mais
elle revient et
retrouver sa mère et qu'on la tue, et en plus que ce soit un flic qui la tue, vous voyez, ça vous fait une âme de rocker, ça, pour la vie, quoi.
Ouais.
Mais là, il y a une immense douceur et chaleur lorsqu'il parle de Julia, de sa mère. Donc, il peut pas dire maman, parce qu'il l'a pas connue comme mère, donc il l'appelle Julia, et donc c'est très émouvant. On croirait pas que c'est du Lennon. On croirait parait presque de la chanson brésilienne.
The song of love, Julia, Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun.
Vous entendez ça, hein? C'est magnifique, hein?
Non, toujours, ça vous transporte. On est transporté, que ce soit voilà, le morceau qu'on vient d'entendre, Blackbird, juste avant, et puis Julia.
Alors, on est transporté et manque de peau, il n'y a pas deux compositeurs, il y a encore un troisième dans le groupe. Et un troisième qui monte et qui monte et qui monte et qui va monter de plus en plus. Et donc, George Harrison, il veut aussi se faire une place entre les deux cadors, là. Donc, sur le disque, il y a quelques compositions de lui, dont le péplum qu'on fera entendre. Mais là, je vais faire entendre une chanson qui vous montre la variété musicale du disque et qui s'appelle Piggies, donc ça veut dire des petits porcs, quoi. Et il parle en fait de la bourgeoisie anglaise en les traitant de porcs. Mais écoutez, sur quel mode est-ce qu'il fait ça? C'est génial. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. C'est du punk avant l'heure.
Et du coup, qui c'est qui chante là sur celui-là?
George Harrison. Avec du clavecin derrière.
Ouais, il a fait la Marseillaise, quoi. Have you seen the bigger piggies in the starched white shirts? You will find the bigger piggies. On imagine bien un clip. S'il y avait eu un clip. Always have clean shirts to play. Bien les compositions de George Harrison. C'est sympa, franchement.
Ah, hein. C'est George Martin qui joue au clavecin.
Il est fort, ce George Martin. Il a dû se marrer, lui aussi.
Tous les Beatles vont chanter derrière en chœur après. Little Piggies. C'est génial. Everywhere there's lots of piggies living piggy lives. You can see them out for dinner with their piggy wives. Clutching forks and knives to eat the bacon.
Énorme, énorme, ouais. Énorme. Bravo, belle découverte. Effectivement, ouais, fallait le connaître, cet album. C'est pas l'album pour moi le plus connu. Sergeant Pepper, c'est celui que je connais moins par rapport à ma génération. Mais cet album-là, je l'ai vu passer. Mais effectivement, très intéressant, très riche, très divers. Effectivement, tu disais, c'est un album bouillonnant.
Bouillonnant.
Voilà, de diversité, de créativité. Même si, voilà, il annonce les prémices de la fin des Beatles. Même si je crois qu'il y a encore deux albums derrière.
Deux albums après.
Voilà. Mais franchement, très, très intéressant.
Alors là, je vais te mettre une série de John Lennon parce que sur ce disque, il est absolument génial. Donc on va en fait écouter trois extraits de morceaux à la suite, parce que malheureusement on n'a pas le temps de tout faire entendre.
Ouais, il nous reste une petite demi-heure à passer avec vous.
Ah, il reste une demi-heure?
Ouais, on est pas mal.
Oh là là, ouais. Alors s'il reste une demi-heure, je crois que je vais faire entendre.
Ah bah vas-y.
Donc on va commencer par Happiness is a Warm Gun. Alors pour vous dire comment les Beatles s'y composent, vous voyez, je veux dire, les Beatles à cette époque-là, c'est Dieu sur Terre, quoi.
Ouais, bon. On n'y touche pas.
Donc ils tiennent un journal quotidien et ils racontent ce qui se passe. Donc à travers ce qui se passe, voilà. Donc ils racontent qu'un jour, il rentre en studio, donc il a composé ça. Il rentre en studio et il voit un magazine de chasse avec marqué dessus « Happiness is a Warm Gun ». Le bonheur est un fusil chaud.
Ouais. Un fusil chaud, c'est Donald Trump qui a écrit ça ou...
Ben voilà, un fusil chaud, c'est un fusil qui vient de tirer,
ouais,
quoi.
Tirer, ouais.
Voilà. Mais il trouve le titre,
c'est choquant, quoi.
Super. Non, mais enfin, le titre veut dire quelque chose.
Oui, bien sûr.
Et donc, il va écrire cette chanson. Vous allez voir, dans cette chanson, il y a trois chansons dedans. C'est-à-dire qu'ils sont tellement créatifs.
Ouais.
Donc, il y a une partie balade, il y a une partie rock, il y a une partie blues, il y a une partie. Enfin, vous allez voir. Je laisse écouter ça, parce que c'est extraordinaire. Tout ça dans une seule chanson. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Deuxième partie, la chanson. Il a besoin d'un fixe parce qu'il a mal.
Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun.
Et là, troisième partie à la Beach Boys. Happiness is a warm gun. Chanteur de rock and roll, tu vois. Vraiment, on le dira jamais assez. Hein. Dans toutes les variétés du rock and roll.
Intéressant aussi, hein. Très divers.
Très
voilà,
divers.
Encore autre chose, encore un état d'esprit.
Un feu d'artifice. Donc là, je vais vous faire entendre Revolution. Donc on est en 68. Hein.
Il y a eu c'est un lien avec Revolution 9, pas du tout.
Oui, c'est un lien. C'est-à-dire que 68, donc il y a eu les événements en France, hein, de mai 68, donc qui ont fait le tour du monde. Mais il y a eu d'autres mouvements de jeunes très importants au Japon, au Brésil, etc. Donc lui, il voit tout ça. Il est dans l'époque Peace and Love, quoi. Donc
quand tu dis lui, c'est le John Lennon.
John Lennon, hein, puisque là en fait on est sur un triptyque John Lennon. Donc il va écrire une chanson en disant là c'est bien de vous révolter, mais attention à ce que vous faites lorsque vous voulez tout détruire, quoi.
Ouais.
Réfléchissez à ce que vous faites, et il dit la première chose à changer, c'est ce que vous avez dans la tête, quoi. Bon.
Ouais.
Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'au début lorsque il dit lorsque vous détruisez, etc., ne comptez pas sur moi, comptez sur moi. C'est-à-dire que voilà, il sait pas trop, il sait pas trop s'il est dedans, etc. Mais en tout cas, cette chanson est très révélatrice de l'époque. C'est ça qui est important avec les Beatles aussi, c'est qu'ils sont un porte-étendard de ce qui se passe dans les mouvements de jeunesse. Hormis ça, donc il y en a une autre version. Ils en ont fait une version 45 tours très très rock pour passer au hit parade. Mais là, donc, c'est la version du disque qui est blues. Vous allez voir, elle est très intéressante. Encore la variété du disque.
Effectivement, je connais la version originale. Enfin, originale.
La version originale, c'est celle-ci.
Là, mais je connais la version.
L'autre, elle est rock'n'roll.
Ouais, ouais, voilà.
Avec une guitare très saturée.
Ouais, pour le coup, je savais pas que c'était eux. Tu vois. Je l'aurais même attribué au Beach Boys, moi, tu vois.
L'entrée des cuivres.
On sent que c'est le disque de ton enfance, ça.
Ah, j'adore.
La marque Beatles, pour le coup.
On va devoir malheureusement passer encore autre chose parce que si on aurait tellement à vous faire entendre.
Et puis on va pas encore leur souhaiter bonne nuit, mais presque.
Ouais. Alors justement, on va pas leur souhaiter bonne nuit. Eh ben, dans le triptyque là, John Lennon que je vais vous faire entendre, et pour vous faire entendre la variété du disque encore une fois. John Lennon donc s'est mis avec Yoko Ono, il a quitté sa femme et il a un enfant de 5 ans à ce moment-là qui s'appelle Julian, pour lequel McCartney va écrire Hey Jude, hein, c'est une chanson pour cet enfant. Ben lui, il est loin de son fils, donc, puisqu'il est parti, et donc il lui écrit une berceuse. Il lui écrit « Good night ». Et on ne croirait pas que c'est John Lennon qui a écrit ça. Ben oui, c'est John Lennon qui a écrit ça. Alors, il n'est pas capable de la chanter, parce qu'il il est trop pudique pour chanter ça. Donc, il va la donner à chanter à Ringo Starr. Donc, c'est Ringo qui chante.
Il faisait plus la gueule, en fait. Là, il faisait plus la gueule.
Ah, mais il s'entraide toujours. Ah, pour ce genre de choses, il s'entraide. Donc là, c'est Ringo qui va chanter la berceuse pour son fils. Avec les arrangements de George Martin, vous allez voir. Mais jamais vous imaginez que c'est une chanson des Beatles. Mais ça, tu vas voir. C'est extraordinaire, encore une fois. On se croirait dans un film américain des années 50.
D'accord.
C'est fou, hein, la variété de ce disque, incroyable.
Now it's time to say good night, good night. Sleep tight. Now the sun turns out.
Incroyable, hein.
T'as l'impression, en fait, c'est une comédie musicale, le disque. Tu vois, tu peux imaginer tout. Tu vois, t'as l'atmosphère Mary Poppins dans le truc.
Alors, on va passer radicalement à autre chose, parce qu'on arrive à la fin.
Ah bah oui, oui.
Mais avant d'arriver au péplum, je vais vous faire écouter le premier hymne punk.
Oui.
Alors, en fait, c'est quoi ? C'est McCartney qui lit la presse rock, parce qu'il y a une compétition terrible entre groupes à Londres. Vous imaginez tous les groupes qui allaient à cette époque. Et il lit un interview de Pete Townsend des Who, qui vient d'enregistrer Je me souviens plus le titre de la chanson, elle est partie, enfin bref.
Qui vient d'enregistrer un titre.
Qui vient d'enregistrer un disque en disant, un titre en disant, voilà, c'est le rock le plus violent et dur qui ait jamais été enregistré. Ça pique McCartney au vif, il dit ah bon, tu vas voir. Et donc là, c'est sur les deux dernières chansons que je vous ai mis, ils sont ensemble en studio. Vous allez voir ce qu'ils font. Ça s'appelle Helter Skelter. Les Sex Pistols ont dit après coup, parce qu'à l'époque ils disaient que les Beatles c'était nul, etc. Lorsqu'ils ont osé dire que et avoué dire que en fait, c'est le groupe qu'ils ont toujours chéri, ils ont dit que c'est le morceau qui les avait inspirés. Écoutez ça. Faut mettre le son là. C'est McCartney qui chante. Les chœurs derrière. Ah, il s'éclate, hein. Pour ceux qui disent que les Beatles c'est pas un groupe de rock.
Ouais c'est ça ouais. Faut pas le dire mais j'en faisais partie. Hein.
Ouais.
Mais au moins j'assume.
Ça réattaque, attention, il reprend.
C'est McCartney là qui chante, hein.
Ouais.
Il envoie grave. Hein.
Ah, il envoie grave.
Il est sur les traces d'un. Il est bien haut, en plus.
La chanson de Pete Townshend, je viens de retrouver, c'est I Can See For Miles.
Il a même un petit côté Led Zeppelin ce morceau.
Oui. Ringo dit à la fin, j'ai des ampoules plein les mains. On l'entend dire ça.
Ouais.
Ouais. Parce qu'il lui demandait de taper, de taper, de taper.
Ouais, pour faire sortir. Non, puis même le côté guitare craque, ça.
Méchant, ouais.
C'est super. Le côté, la corde à vie, là. Muse, voilà, c'était les.
Ah oui, il y a du Muse, là.
Ouais.
Il y a du Muse. Tu vas l'entendre, le cri de Ringo à la fin.
Ouais.
Ça va revenir encore, tu vois.
Ouais, ils font un petit quebré, boum, ça va remonter. Tac.
Ça va revenir. Et ouais. Je sais pas comment il dit en anglais, mais ça signifie... Putain, j'ai des ampoules plein les mains, arrêtez-vous, quoi.
Aïe. Ouais, c'est marrant, c'est... pourquoi ils ont fait ça. Genre, comme s'ils avaient baissé le son. Ils sont trop. Ah ouais. On dirait une grosse fin de live.
C'est toujours pas fini. écoute ça. Ah, c'est punk, hein.
C'est clair.
Voilà, j'ai voulu te faire ça parce que j'ai dit ça, c'est le petit cadeau même, pour Bruno, ça.
Ça, c'est mon péplum à moi. Mais voilà. T'en as un, toi, un péplum pour terminer cette émission.
Alors oui,
émission.
J'ai mon péplum. Raconte-nous ça. J'ai mon péplum. Alors, c'est une chanson de George Harrison. Alors, George Harrison, il monte en puissance. Enfin, moi, dans les compositions des Beatles, les chansons de George Harrison sont faites très souvent les chansons qui me touchent le plus. C'est quelqu'un qui a une extrême finesse, je trouve. Donc cette chanson s'appelle « Well, my guitar gently weeps ». Alors, elle a quelque chose de très particulier, c'est que le solo de guitare que vous allez entendre est joué par Eric Clapton. C'est lui qui... C'est-à-dire qu'à un moment donné, George Harrison n'arrive pas à sortir ce qu'il veut. Autant la mélodie est merveilleuse, vous allez voir. Mais il n'arrive pas à sortir ce qu'il veut, donc il va chercher Eric Clapton, qui est son ami, hein, qui est un ami personnel. Et c'est la première fois qu'un autre musicien rock rentre dans le studio des Beatles.
Mais la rencontre entre Lennon et Clapton, elle se fait là aussi ? Parce qu'après, ils ont beaucoup traîné ensemble, ils ont tourné ensemble.
Ah, ils ont beaucoup tourné ensemble. Enfin, je veux dire, Clapton a travaillé avec Lennon, il a enregistré avec Lennon. Non, non, la rencontre, elle s'est faite bien avant. Dans le milieu du Londres de ces années-là, ils se connaissent tous.
D'accord.
Ils se côtoient dans les boîtes, etc. Enfin, je veux dire, il y a des boîtes de musique dans lesquelles ils sont entre eux, rien qu'entre eux. Donc, ils se connaissent tous et il y a vraiment une grande amitié entre eux. Parce qu'il n'y a pas de peur entre eux, il y a une rivalité, mais il n'y a aucune concurrence. Voilà. Il y a même une entraide. Donc, ils s'entraident les uns les autres par rapport aux sorties des disques qui font en sorte que l'un ne sorte pas le même disque au même moment, etc. Donc, ils sont très amis. Et George Harrison et Eric Clapton étaient profondément amis, donc ils sont amis intimes. Voilà. Voilà, moi, c'est le morceau du disque qui est pour moi le sommet, et qui m'émeut et qui me touche à chaque fois. Voilà. Donc, je voulais finir avec ça. C'est Paul McCartney qui joue l'intro au piano, qui est très très belle, très simple et très belle. C'est la voix de George Harrison. Les Beatles jouent ensemble. Solo de Rick Clapton.
J'ai envie de te dire, ça s'entend.
You.
Alors, est-ce que ça t'a plu, Bruno ?
Bah écoute, j'ai été transporté par cet album, par cette découverte pour moi, parce que c'était vraiment des titres que je ne connaissais absolument pas. Autant Sergeant Pepper, je connaissais, parce que voilà, c'est bien passé, c'est passé partout. Mais autant cet album-là, moi, je ne le connais pas. Et là, j'ai découvert vraiment des choses très intéressantes avec un univers totalement... mais limite burlesque à certains moments parce que ça part dans tous les sens, mais toujours aussi bien joué, toujours aussi interprété. Et puis c'est bien aussi de voir que les quatre musiciens dans le vent, comme on peut dire, avaient tous une âme finalement, qu'ils soient collectif ou individuel, ils ont tous du talent. Et il y a des moments, ils ont réussi à le mettre ensemble, mais même quand ils étaient séparés, ça donnait aussi quelque chose. Et c'est ça aussi, je trouve, leur force, quoi, c'est d'avoir ces individualités qui, une fois au service du collectif, te donnent un truc génial.
Voilà. Exactement. Voilà. C'est ça, un groupe de rock. Voilà. C'est une alchimie. Alors, juste pour finir, je voulais dédier cette émission à trois personnes qui sont des fous amoureux de ce disque. Donc, c'est Eric Chalot, notre ami Moza Pop et Martine. Voilà, ils se reconnaîtront.
Puis moi,
une spéciale dédicace à Sacha qui est dans le studio.
Sacha aussi, un gros bisou à Sacha, puis un gros bisou à Jaco. Jaco, mon Jaco, voilà, gros bisou à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez envie de nous raconter un disque, une histoire, vous pouvez venir le faire. Venez nous voir à la MJC, vous nous appelez 01 64 91 17 80. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Vous nous dites, voilà, je voudrais vous faire partager telle découverte, tel artiste. Et on vous accueille avec plaisir sur Radio Terre de Mix.
On vous aime, à très vite.
Ciao, ciao.